Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Pour reprendre l'expression consacrée, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Les relations entre Paris et Ankara ont rarement été aussi mauvaises. Entre les présidents Macron et Erdogan, le courant ne passe pas. Et même l'Europe commence à perdre patience avec son allié au sein de l'OTAN. La Turquie n'a jamais été aussi loin de l'Europe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un pays devenu l'épouvantail de l'Europe. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais pas sûr que la voix mélodieuse de Ferdi Tayfur suffise à ramener le calme entre Ankara et ses voisins européens. Syrie, Grèce et maintenant au Karabakh, la Turquie du Raïs Erdogan est sur tous les fronts.
Le fait que l'Amérique, la Russie et la France, connues sous le nom de Trio de Minsk, cherchent un cessez-le-feu face à ces évolutions négatives, simplement parce qu'elles ont négligé ce problème pendant près de 30 ans, n'est absolument pas acceptable.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de dresser l'oriflamme nationaliste contre l'interventionnisme étranger. En témoigne son opposition au groupe de Minsk, créé il y a presque 30 ans déjà, pour jouer un rôle de médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays aux portes de la Russie et de la Turquie. Mais quelques semaines plus tôt déjà, la France avait dû intervenir pour calmer les ardeurs de la Turquie près des îles grecques. Yves Bourdillon est journaliste au service international des Échos. Il suit depuis de nombreuses années la situation au Proche-Orient et les évolutions du tempétueux voisin turc. Yves, je voudrais d'abord qu'on fasse un point sur les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La région est sous pression depuis quasiment l'effondrement du bloc soviétique. Quel est l'enjeu ?
L'enjeu géostratégique ne semble pas énorme, puisque le Haut-Karabakh, dont les habitants l'appellent Artsakh, est grand comme à peine deux départements français, 155 000 habitants, très peu de ressources. Mais il est peuplé en grande majorité d'Arméniens qui ont obtenu leur indépendance en 1994. Ils ont autoproclamé une république à l'issue d'une guerre avec le soutien de l'Arménie qui a duré 6 ans et qui a fait environ 30 000 morts. Donc depuis lors, c'est un point extrêmement sensible pour l'Azerbaïdjan puisque ce territoire lui appartenait depuis le début de l'URSS et il faut reconnaître que 14% du territoire azéri échappe au contrôle de Bakou. Donc c'est une question nationale de première importance pour l'Azerbaïdjan qui voudrait reconquérir ce territoire, mais aussi pour l'Arménie puisqu'ils considèrent qu'ils ont la responsabilité de protéger cette population qui, évidemment, si l'Azerbaïdjan la reprenait, serait en très grande difficulté, serait peut-être obligé de fuir.
Pourquoi ce regain de tension ?
L'Azerbaïdjan prépare sa revanche depuis 25 ans, depuis sa défaite face à l'Arménie, soutenue un petit peu par la Russie à l'époque, au moment de l'effondrement de l'URSS. Et donc, il s'arme grâce à l'argent du pétrole, puisqu'il est assez riche, grâce aux hydrocarbures de la mer Caspienne. Et cet été, ils ont pu penser que le Covid distrayait un peu les grandes puissances. Peut-être besoin d'un certain ralliement autour du drapeau, vu les difficultés économiques et sociales liées à l'effondrement des cours du pétrole, qui représentent 2/3 des exportations de l'Azerbaïdjan. Donc c'était pour eux le moment d'y aller et de tenter de reconquérir avec, il faut le voir sur le papier, en tout cas, un rapport de force qui est plutôt en leur faveur. Ils ont à peu près 3 fois plus d'avions et de chars que l'Arménie et le Haut-Karabakh.
Pour qu'on comprenne bien, le Haut-Karabakh, c'est donc ce petit bout de territoire azerbaïdjanais sous contrôle des forces arméniennes depuis la guerre de 1994 qui avait fait 30 000 morts et 1 million de déplacés. Il était appelé Nagorno-Karabakh à l'époque de l'Union soviétique. Mais Yves, en quoi le Haut-Karabakh est-il important pour la Turquie et la Russie?
Pour la Turquie, c'est évident que, puisque c'est un pays musulman et turcophone, Erdogan se sent la mission de le protéger dans le cadre d'une politique assez offensive sur le plan international. Et pour la Russie, c'est un allié historique de l'Arménie, c'est même un des rares pays de l'ex-URSS qui a toujours eu des relations très étroites et positives avec Moscou. Donc ça correspond à la priorité de Poutine, qui est aussi de montrer que rien dans le Caucase ne peut se faire contre sa volonté et que c'est la Russie qui contrôle la région. Il y a aussi des rivalités sur le plan gazier, c'est-à-dire que le gaz azéri passe par des pipelines qui concurrencent ceux de Gazprom. Donc cela fait des rivalités assez importantes et c'est un dilemme au passage pour Poutine, puisqu'il ne voudrait pas pour autant se fâcher avec l'Azerbaïdjan. Donc il ne sait pas quoi choisir entre les deux protagonistes.
Vers 9h30, heure locale, ce mardi, le chasseur Sukhoi russe, en feu, déchire le ciel bleu à la frontière syro-turque, à l'ouest de la ville d'Idleb.
Depuis 2015, la Russie et la Turquie soutiennent des camps opposés en Syrie, ce qui a provoqué des crises diplomatiques. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan envenime encore un peu plus les relations entre Ankara et Moscou.
Certainement, puisque les deux pays sont déjà rivaux sur deux théâtres d'opérations en Syrie, où ils soutiennent des groupes armés différents et où la Russie intervient même directement, et la Turquie aussi d'ailleurs, dans le nord, mais aussi en Libye, où des mercenaires russes ont été défaits par l'armée turque qui est intervenue il y a quelques mois en soutien du gouvernement Sarraj soutenu par la communauté internationale. Donc à chaque fois, il y a des rivalités, mais ils arrivent à compartimenter en quelque sorte leur confrontation et empêcher qu'elles dérapent. On se souvient qu'en 2015, un avion turc avait abattu un avion russe dans le ciel syrien. Les deux pays avaient été apparemment deux doigts de la guerre et puis finalement, ça s'était arrangé. Mais un dérapage n'est pas impossible puisque maintenant, ça fait un troisième théâtre de rivalité et peut-être plus grave, plus essentiel aux intérêts des deux pays que les deux autres.
Que peut faire le groupe de Minsk, hormis appeler à un cessez-le-feu?
Eh ben, ils peuvent aussi diffuser un communiqué exprimant leurs profondes préoccupations. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose diplomatiquement tant que Erdogan soutient l'offensive azérie et que Poutine est embarrassé. Les moyens de pression pour faire cesser les combats sont très faible, vu que ni Bakou ni Erevan ne peuvent se permettre de reculer sans être humiliés. Et les moyens de levier économique via des sanctions ou des menaces sont assez faibles. Donc le groupe de Minsk, que Erdogan a d'ailleurs jugé discrédité, puisque la Russie est partie prenante, selon lui, enfin, indirectement, n'est pas neutre, eh bien le groupe de Minsk est relativement impuissant.
Je peux vous confirmer en propre que 300 combattants ont quitté la Syrie pour rejoindre Bakou en passant par Gaziantep. Ces combattants sont connus, tracés, identifiés. Ils viennent de groupes djihadistes qui opèrent dans la région d'Alep.
Emmanuel Macron a aussi évoqué l'arrivée sur le théâtre de guerre de groupes djihadistes venus de Syrie. Ça change aussi la donne, dit-il, c'est-à-dire?
Eh bien, cela montre une dimension islamiste nouvelle dans le conflit. C'est-à-dire que ça voudrait dire que, en plus d'être une confrontation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, si nous avons des mercenaires islamistes, ça donne une dimension sur le plan idéologique, en quelque sorte, supplémentaire. Mais à vrai dire, ce qui changerait beaucoup la donne plus encore, c'est s'il y avait une implication militaire directe d'Ankara contre l'Arménie. Pour l'instant, la Turquie dément que ses forces soient intervenues directement, mais l'Arménie pourrait alors, si elle était attaquée par la Turquie, invoquer le traité d'assistance, le OTSC, le traité de sécurité collective signé avec la Russie, qui n'est pas automatique. Ça ne veut pas dire que la Russie volerait à son secours, mais il y aurait ce scénario, puisque Moscou serait dans un dilemme. S'il ne soutient pas l'Arménie, si elle est attaquée, sa crédibilité vis-à-vis de ses alliés serait réduite. Donc c'est un autre moyen, une autre ligne rouge qui pourrait changer la donne. Et puis nous avons aussi un troisième élément qui change la donne, c'est depuis hier les bombardements sur des villes réalisés par les deux parties.
La Grèce défendra sa souveraineté et ses droits souverains.
Nous appelons la Turquie à quitter sans délai le plateau continental grec.
Deuxième front, plus à l'ouest, en Méditerranée, avec cette fois-ci la Grèce. On vient d'entendre Nikos Dendias, le ministre grec des Affaires étrangères, c'était début septembre. Que reprochent les Grecs à la Turquie, Yves ?
Eh bien, la Turquie réalise des prospections sous-marines pour repérer des gisements d'hydrocarbures à la limite, voire peut-être à l'intérieur, en tout cas très près des eaux territoriales grecques. Il y a donc un enjeu clairement financier, économique, mais pas seulement, parce que sinon, il sera assez simple de s'entendre sur une répartition des revenus. Mais il y a aussi un enjeu géopolitique, c'est que la Turquie veut montrer qu'elle est le patron de la Méditerranée orientale, voire plus, dans le cadre d'une politique étrangère très agressive de Erdogan depuis quelques temps. Et en même temps, si on essaye de se mettre à la place des Turcs, il y a une certaine amertume à voir que, du fait que la plupart des îles de la mer Égée sont sous souveraineté grecque, l'essentiel des eaux de la région appartiennent aux Grecs, d'après les traités internationaux, notamment la zone d'exclusive économique de 12 000 marins autour du moindre îlot. Il y a même des eaux grecques qui se trouvent à quelques 2 ou 3 kilomètres de la côte turque. Donc, ils aimeraient bien redresser l'affaire et négocier en se mettant en position de force, puisque lorsqu'il y a eu cette prospection cet été, le navire de prospection était entouré d'une demi-douzaine de navires de guerre turcs.
C'est vrai que la Turquie dénonce aussi la militarisation des îles grecques comme celle de Chios, qui est vraiment tout près, au large d'Izmir. Le pays est en train de remettre en cause les traités de répartition des eaux qui datent de la Première Guerre mondiale.
Oui, exactement. Il aimerait négocier, évidemment en position de force, mais il faut reconnaître qu'il y a eu un peu d'accalmie alors que le scénario d'une guerre n'était pas totalement impensable. Cela dit, la Turquie et la Grèce sont évidemment rivaux pour raisons historiques depuis presque deux siècles, mais à chaque fois, ils ont su s'arrêter à temps, puisque tous les deux font partie de la même alliance atlantique, l'OTAN, et cet été, apparemment, quelques coups de fil peut-être de Merkel ou de l'Italie, qui avaient une position différente de celle de la France, où Macron avait décidé de rouler un peu des mécaniques en voyant deux frégates aux côtés des navires grecs. L'Italie et l'Allemagne étaient plutôt sur une position plus diplomatique. Et il se peut que ça, plus aussi des interventions américaines, pourquoi pas, ont fait que Erdogan a estimé préférable d'ouvrir des négociations avec les Grecs.
Pourquoi la France est-elle d'ailleurs intervenue aux côtés d'Athènes ?
D'abord, ça s'inscrit dans une stratégie internationale assez offensive d'Emmanuel Macron. On le voit aussi au Liban, où il vient apporter quasiment un protectorat, ou en tout cas, il s'implique énormément dans cette région. Ça correspond donc à la position de l'Élysée, qui est de tenir tête à un pays qui a un agenda, l'agenda de la Turquie, qui est quand même assez menaçant et expansif. Au passage, cette position a permis de vendre quelques rafales. Donc, c'est un effet collatéral pas désagréable.
Oui, derrière cette politique nationaliste, derrière ce que certains appellent l'aventurisme militaire turc, il y a un homme, Recep Erdogan, c'est vraiment l'homme fort d'Ankara ?
Absolument, puisqu'il y a eu un référendum constitutionnel qui lui a apporté tous les pouvoirs, une concentration sans équivalent au monde il y a deux ans. Donc, effectivement, c'est un homme fort qui n'a perdu quasiment aucune élection depuis 2003, à part les municipales à Istanbul et Ankara. Alors, cela dit, il commence à être contesté pour des résultats économiques et sociaux très décevants depuis quelques années, qui étaient jadis son point fort. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, sa politique étrangère fait l'objet d'un grand consensus. L'opposition ne le critique pas pour cet aventurisme. Et il y a une position nationaliste assez répandue en Turquie de reconquête d'un espace, de réaffirmation de puissance, que ce soit vers le Caucase ou la Méditerranée orientale. Donc ça dépasse Erdogan, cette position-là.
Nous, ce n'est pas courir après les photos ou faire le spectacle devant les caméras qui nous intéresse. Ce que Macron et compagnie veulent, c'est rétablir l'ordre colonial.
Erdogan voit Emmanuel Macron comme un caïd, un colonialiste. Comme on l'a entendu sur RTL, ce n'est plus l'amour tendre entre les deux hommes. Comment expliquer ce ton acrimonieux ? C'est une question de rivalité diplomatique en Méditerranée, notamment en Libye et au Liban ?
Cela déborde et cela correspond, il faut le reconnaître, à la personnalité ou en tout cas aux postures de Erdogan qui finalement menace et parfois insulte tous ceux qui lui tiennent tête ou avec qui il est en désaccord. Il a quand même déjà traité de nazi le gouvernement néerlandais qui objectait à ce que des ministres turcs viennent faire campagne électorale sur le sol des Pays-Bas lors de législatives. Donc, C'est vrai, il a aussi insulté Angela Merkel, les Suisses pour la même raison. Bon, à l'époque, la France, François Hollande avait accepté que ses ministres viennent, donc avait échappé à son ire. Mais voilà, il est très agressif, que ce soit avec les États-Unis, la Russie. À vrai dire, Erdogan s'est fâché avec à peu près tout le monde. Parfois, il se réconcilie, comme ça a été le cas avec Israël, mais on peut lister les pays avec lesquels il a eu des mots difficiles. Ce sont les États-Unis, tous les pays d'Europe, le Vatican, la Russie, l'Iran, la Syrie, Israël, l'Égypte. Il n'y a que la Chine, finalement. Donc ça fait partie de sa politique étrangère, qui jadis était une politique dite de zéro souci. Ben maintenant, c'est plutôt souci tout azimut.
Pour reprendre aussi une vieille expression, la Turquie, combien de divisions ?
Un grand nombre. Numériquement, c'est, je crois, la deuxième ou la troisième armée de l'OTAN en nombre de chars, de soldats et d'avions, même si maintenant, il faut compter plutôt en fonction de la technologie des avions, c'est pas si simple, mais ils ont des armes très modernes, puisque, par exemple, c'est un F-16 turc qui a abattu un Sukhoi 24 russe il y a quelques années en Syrie, donc ils sont puissants sur le plan militaire, et puis surtout, ils ont une position qui est aussi celle de Poutine, d'ailleurs, qui est le premier qui ose mettre des bottes sur le terrain, comme on dit, boots on the ground, comme disent les anglo-saxons, a un avantage face aux autres grandes puissances qui n'oseront pas l'affronter. Donc, il décide assez aisément de déployer des actifs militaires pour occuper le terrain et intimider. Maintenant, il est impliqué quand même dans trois théâtres, Syrie, Libye, peut-être au Karabakh bientôt. Ça fait beaucoup, donc peut-être qu'il va peu trop loin et qu'il risque de prendre des coups.
Un dernier mot, Yves. Nous sommes le lundi. L'émission sera diffusée mardi. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots, faire le lien avec l'actualité dans le Haut-Karabakh. Normalement, c'est jamais de guerre civile le mardi. C'est le titre de votre nouveau roman. Mais ça ne se passe pas en Azerbaïdjan.
Non, ça se passe en France, qui effectivement sort la semaine prochaine et qui imagine que les tensions communautaristes et les attentats, comme on a connu le Bataclan, poussent notre société à une situation conflictuelle extrêmement difficile. Et j'ai pris le parti de la traiter sous l'angle de la comédie, ce qui peut paraître un peu audacieux, mais c'est ainsi. Donc c'est une comédie sur le risque de guerre civile dans quelques années dans un pays, dans notre pays, voire un peu plus largement.
Pendant ce temps-là, à Bruxelles, la diplomatie européenne se met en marche. Après avoir sanctionné le régime biélorusse du président non reconnu Alexandre Loukachenko, autre dossier chaud aux portes de l'Europe, l'Union européenne a aussi tapé du poing sur la table concernant la situation en Méditerranée. Si Ankara poursuit ses actions illégales, nous utiliserons tous les instruments à notre disposition, a averti Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui agite la menace de sanctions économiques. Lors de ce sommet européen du 1er et 2 octobre, l'Europe a donc mis de côté ses divisions. J'ai appelé Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, pour savoir ce qu'il avait pensé de la réponse européenne à la crise en Méditerranée.
D'un point de vue français, on a estimé qu'elle était un peu molle et un peu tardive, parce qu'après tout, ces deux États membres, la Grèce et Chypre, qui font l'objet d'une agression, d'une transgression de leurs droits par un grand voisin, la Turquie. Mais en réalité, l'Union européenne, comme souvent, a joué sur tous les tableaux, c'est-à-dire à la fois la France a été très réactive et très ferme, et dans le même temps, l'Allemagne qui préside l'Union européenne a essayé de maintenir un dialogue qui s'est révélé assez efficace, et cette conjonction, finalement, on voit bien, a permis, dans le cadre de l'OTAN d'ailleurs, à la Grèce et à la Turquie de trouver un modus vivendi pour éviter des affrontements en mer, qui est quand même le moins qu'on puisse faire entre deux membres de l'Alliance, et au dialogue de se renouer. Et on voit que, côté turc, on n'a pas les moyens de tenir la dragée haute longtemps à l'ensemble européen quand il est uni.
Vous pensez que Erdogan peut être sensible aux menaces de sanctions, mais aussi à la promesse d'une nouvelle dynamique, notamment commerciale, avec la Turquie ?
Pas uniquement, vous savez... On dit que l'armée turque est une armée très importante, mais quand on regarde en détail, c'est vrai qu'il y a 1 million d'hommes, c'est vrai qu'il y a une armée de terre qui a montré, hélas, contre les Kurdes et en Syrie, son efficacité, Mais par exemple, la force aérienne turque est inférieure aux avions grecs, qui sont d'ailleurs français. Donc quand on renforce l'aviation grecque par 18 rafales, c'est aussi une montée d'adrénaline des deux côtés qui compte aussi. Et donc c'est pas seulement l'aspect commercial qui est très important pour la Turquie, c'est aussi l'aspect militaire, l'aspect diplomatique. Vous savez, la diplomatie d'Erdogan s'était fixée quand il est arrivé au pouvoir de n'avoir que des amis à ses frontières. Et 15 ans après, il n'a que des ennemis et des rivaux à ses frontières. Donc, il n'a pas les moyens que d'autres grandes puissances peuvent avoir, comme par exemple la Russie. Et donc, l'Europe a, à mon avis, plus d'atouts pour calmer M. Erdogan que pour calmer M. Poutine.
Pour une fois, l'Europe a parlé globalement d'une même voix vis-à-vis d'Ankara ?
Oui, au début, tout le monde a pensé, notamment à Paris, que n'était pas assez ferme avec Ankara, mais au bout de quelques semaines, on s'aperçoit qu'en réalité, on a amené les Turcs à composer dans un sens qu'on souhaite, c'est-à-dire éviter les provocations permanentes en mer Égée, et puis essayer de renouer un dialogue. Encore une fois, l'économie turque est très dépendante de l'économie européenne, et la puissance financière, économique, mais aussi militaire de l'Union européenne est loin d'être négligeable.
La carotte et le bâton, deux armes bien connues en matière de diplomatie. Good cop et bad cop, dit un diplomate pour parler du couple franco-allemand. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions internationales. Ce sommet européen, c'est plutôt une victoire pour la Turquie qui échappe aux sanctions ?
Oui, en tout cas, il s'agit plutôt d'une défaite de l'Union européenne, j'allais dire, parce que vous savez que la Turquie, quand même, viole les eaux territoriales en Grèce, en Chypre, a une politique expansionniste. Et Erdogan est quelqu'un qui a installé tout de même une quasi-dictature en Turquie. On emprisonne les juges, les journalistes, les députés. Et donc, c'est quelqu'un qui s'en sort extrêmement bien de ce Conseil européen, qui avait mis sur la table un certain nombre de sanctions. Et c'est grâce à Angela Merkel que ces sanctions n'ont pas été adoptées, car elle privilégiait un dialogue constructif avec la Turquie, malgré l'attitude agressive de ce pays. Certains voulaient absolument des sanctions, notamment la Grèce et Chypre. Et finalement, on a réussi, après plusieurs heures de discussion, de faire renoncer la menace d'un veto chypriote et grec sur les menaces à l'encontre de la Biélorussie pour privilégier un dialogue avec la Turquie. L'Europe ayant une crainte très importante, c'est que Erdogan libère tous les contrôles sur la migration. Et donc, c'est un compromis, mais c'est une victoire nette, en effet, pour Erdogan, même si, au lendemain de ce Conseil européen, il a de nouveau critiquer l'Union européenne pour avoir simplement évoqué des sanctions à l'égard de son pays.
Oui, c'est vrai que la Turquie ne semble plus avoir de limites aujourd'hui. Ce chantage aux réfugiés, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il le fait.
Mais oui, parce qu'imaginez la situation dans laquelle s'est retrouvée l'Europe. C'est d'ailleurs Angela Merkel elle-même qui avait négocié cet accord avec Erdogan. La Turquie a reçu plus de 6 milliards d'euros, devrait encore recevoir de l'argent. Et donc, s'il met sa menace à exécution, regardez l'état dans lequel se situent les camps en Grèce des réfugiés, eh bien, ce sera un nouvel afflux vis-à-vis duquel l'Europe aura le plus grand mal à faire face avec les menaces d'ordre politique que cela peut entraîner. Et on peut même dire que l'Europe aujourd'hui n'est pas en situation matérielle, financière, hélas, de s'occuper dignement de l'ensemble de ces migrants. Et donc la menace de laisser déferler en Europe ces flux de migrants qui fuient la guerre, qui fuient également la pauvreté, c'est une réelle menace et l'Europe ne veut plus vivre ce cauchemar.
Est-ce que c'est la seule raison qui explique la timidité finalement de l'Allemagne vis-à-vis d'Ankara ?
Alors l'Allemagne a certaines particularités, comme vous savez, c'est que c'est dans ce pays où se trouve la plus grosse, la plus importante communauté turque, qu'il s'agisse des Allemands d'origine turque ou des Turcs qui vivent là-bas avec des titres de séjour. Si on compte les Allemands d'origine turque, la communauté turque, c'est pratiquement 3 millions de personnes en Allemagne. Ce sont des gens qui votent massivement pour Erdogan. Donc c'est un élément très important qu'Angela Merkel doit prendre en compte. L'autre élément, manifestement, c'est que la Turquie, étant membre de l'OTAN, étant un pays stratégique dans cette partie de la Méditerranée, personne, aucun pays dans l'Union européenne n'a intérêt à prendre des sanctions et à fâcher Ankara, dans la mesure où Erdogan a plusieurs fois agité la menace de se tourner plus vers la Russie.
Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet.
On a entendu Emmanuel Macron lors du sommet des membres de l'Alliance des pays du Sud de l'Union européenne, c'était le 10 septembre. Jusqu'à ces derniers jours, Emmanuel Macron semblait isolé en Europe face à la Turquie. Il fait fausse route.
Oui, c'est-à-dire que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a voulu prendre des actions unilatérales. Il a eu un certain courage, vous savez, en envoyant quelques vedettes militaires en Méditerranée. Mais il s'est fait taper sur les doigts, si vous me passez l'expression. Les États-Unis n'ont pas voulu cette logique de la diplomatie de la canonnière. Même certains pays tels que la Grèce ou l'Italie lui ont demandé d'être plus souple. Et par conséquent, il a voulu faire régner une sorte d'ordre, en quelque sorte, s'ériger en gendarme de la Méditerranée, en évoquant une souveraineté méditerranéenne qui n'existe pas en tant que telle. Et donc, sa stratégie n'a pas été du tout approuvée ni par l'Union européenne ni par l'OTAN. Il a dû donc rebrousser chemin en quelque sorte, renoncer et s'inscrire plus dans une coopération européenne et dans le cadre de l'OTAN. Donc, on peut dire que la stratégie d'Emmanuel Macron n'a pas été approuvée du tout. Et au final, c'est bien Erdogan qui sort vainqueur de cet affrontement. Et la France, en tout cas, eh bien, sa stratégie n'a pas été couronnée de succès, même si on peut considérer le fait d'avoir eu une attitude très dure a pu encourager l'Europe à essayer de prendre des sanctions, mais on a bien vu que les sanctions, finalement, personne n'avait souhaité les prendre.
Patrick Martin-Genier, par son attitude vis-à-vis de la Grèce et de Chypre, ou par sa puissance militaire présumée, la Turquie est-elle aujourd'hui une menace pour l'Europe ?
Écoutez, moi je dirais que clairement, c'est une menace pour la région. Qu'elle soit une menace pour l'Europe, oui, elle est une menace manifestement pour la Grèce, pour Chypre, puisque Erdogan, au lendemain du Conseil européen, a clairement affirmé qu'il continuait à effectuer des forages, notamment pour le gaz, mais c'est une menace également dans la région. Regardez en Libye, bien, il s'affronte également avec la France. La Turquie viole l'embargo militaire, ou en tout cas soupçonnée de violer l'embargo militaire. Et voilà que dans le Haut-Karabakh, eh bien, il veut également s'affirmer pour étendre sa puissance régionale. Dès lors qu'un pays prétend avoir une hégémonie régionale, il devient en effet une menace non seulement pour l'Europe, mais au final pour le monde entier.
Alors Erdogan a déclaré « Nous œuvrons jour et nuit pour que notre pays retrouve la place qui lui revient dans l'ordre international. Nous nous tenons partout aux côtés des opprimés, de la Syrie à la Libye, de la Méditerranée orientale au Caucase. Certains accusent Erdogan de vouloir reconstituer l'Empire ottoman. Qu'est-ce que vous en pensez ?»
Bon, écoutez, sans vouloir faire une référence à l'Empire ottoman, manifestement, oui, c'est quelqu'un qui veut assumer une sorte d'expansionnisme, un nationalisme néo-turc ou un néo-nationalisme turc, une sorte d'expansionnisme. En effet, c'est quelqu'un qui veut étendre ses ramifications et sa puissance régionale et quelqu'un qui considère qu'on doit reconstituer une sorte de grande Turquie dès lors qu'il a consolidé son pouvoir à l'intérieur. Mais vous savez, c'est toujours la logique des dictateurs parce que personne n'a parlé des droits de l'homme en Turquie. C'est une dictature. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie. Et un dictateur a toujours intérêt à avoir une sorte de fuite en avant pour affirmer la puissance de son pays et s'affirmer également sur la scène politique intérieure, puisqu'il n'y a plus d'opposants. Tous les gens qui ont voulu s'opposer à lui sont désormais arrêtés, contraints à l'exil ou incarcérés.
Il y a tout de même eu des élections municipales récemment qui ne lui ont pas été favorables. Là aussi, c'est une façon de reprendre la main ?
Oui, il y a quand même une base politique parce que la Turquie a été bien plus démocratique qu'elle ne l'est avant les tentatives de coup d'État. Il y a encore une résistance, notamment à Istanbul, mais également dans les régions kurdes. Beaucoup de maires d'opposition kurdes ont été élus. Ils ont tous été destitués dans la foulée. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'opposition, mais vous savez, quand vous arrêtez tout le monde, des députés, des journalistes, des enseignants, des juges constitutionnels, eh bien, il faut vraiment une sorte d'opposition, résistance à la base pour empêcher Erdogan de continuer. Je pense que s'il continue de cette façon, éventuellement, il y aurait un jour des perspectives de coup d'État. Hein, parce que s'il va trop loin, c'est peut-être la perspective qu'il attend. Mais on peut dire que tant que l'armée soutient Erdogan, eh bien, il restera solidement ancré dans son pays. Il ne faudrait pas, en revanche, qu'il subisse des défaites militaires, car ça, je pense que les militaires ne lui pardonneraient pas.
Si j'ai bien compris, on n'assiste pas encore à la contre-attaque de l'Empire. Malgré tout, les tensions récurrentes avec la Turquie posent une autre question. Jean-Dominique Giuliani, alors que les États-Unis prônent une politique de plus en plus isolationniste, est-ce que cela ne relance pas la nécessité d'une véritable défense européenne à 27 ?
Oui, relance n'est pas le bon mot, parce que de plus en plus, tout le monde en est convaincu. Le problème, c'est d'arriver à le faire concrètement et peut-être plus rapidement, compte tenu des évolutions extrêmement rapides du contexte international, notamment à nos frontières. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, des puissances révisionnistes comme la Russie, la Turquie, l'isolationnisme américain ou la montée en puissance de la Chine, et toute une série de conflits, on voit bien en Azerbaïdjan aujourd'hui, susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'Europe, tout cela plaide pour une Europe plus souveraine, comme a dit Emmanuel Macron, en tout cas plus autonome et plus indépendante. Et donc, une diplomatie plus indépendante doit s'appuyer aussi sur la force. C'est très compliqué pour l'Union européenne, parce que n'étant ni un État, ni un empire, elle a été construite sur le droit et à l'inverse de tout ce qu'on a connu dans le passé. La force est mise au service du droit et pas l'inverse. Et donc, c'est très compliqué de trouver un accord, c'est très compliqué de rapprocher des cultures différentes. Si je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne, l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a abandonné toute idée de militarisme. Elle a mis dans sa constitution qu'elle n'avait pas le droit de faire la guerre. Tout ça est un acquis très positif pour la sécurité sur le continent. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que quand il faut de temps en temps manier la carotte et le bâton, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, il y en a qui sont plus portés sur la carotte, et d'autres, comme la France, par exemple, en matière militaire et de défense, qui sait encore manier le bâton. Ce qu'il faut, c'est concilier tout cela, l'additionner, c'est pas facile. Mais je crois qu'il y a désormais un consensus et qu'on est sur la bonne voie.
La Turquie n'a jamais été aussi loin d'une intégration dans l'Union européenne, dont on parlait encore dans les années 2001.
Oui, je crois que c'est fini. C'était un calcul de Jacques Chirac et d'Helmut Kohl à une autre époque, pensant rapprocher la Turquie d'un modèle démocratique européen. C'était possible avec Mustafa Kemal Atatürk, ce n'est pas possible avec Recep Tayyip Erdogan, comme on voit bien que ce n'est pas possible non plus, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Donc ce rêve-là de « je n'ai pas de politique étrangère, mais j'ai une politique de voisinage pour attirer les voisins sur le modèle européen », on voit bien qu'elle doit aujourd'hui passer à autre chose, avoir une vraie politique étrangère avec des rivaux, parfois des ennemis, des alliés, et essayer de composer entre puissances.
Merci Yves Bourdillon, journaliste aux Échos, pour ce décryptage de la situation au Haut-Karabakh. Merci Jean-Dominique Giuliani de la Fondation Robert Schuman. Et merci Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Merci de votre fidélité. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.